Bonjour, je m'appelle Lou Garnet, je suis en terminale ES.
Bientôt en bac.
Voilà. Et une élève qui aime beaucoup le théâtre, et qui joue très bien au théâtre, c'est ça?
Très bien, je sais pas.
Bah, je peux le dire.
Bonjour, je m'appelle Kenji Leroux, je suis en première S.
Voilà. Bonjour, je m'appelle Ulysse Randel et je suis en terminale S.
Bonjour, je m'appelle Léonard Lustal, je suis en seconde.
Bonjour, Nao Tamatori, terminale S.
Bonjour, je m'appelle Petit Rafugi, je suis en terminale S.
Bonjour, je m'appelle Régina Kiloa, je suis en première S.
Bonjour, je m'appelle Lida, je suis en première N.
Bonjour, je m'appelle Théo Bertrand et je suis en terminale S.
Bonjour, je m'appelle
Anthony Plain et
je suis en terminale S.
Et bonjour, c'est Romaric Croinette et moi je suis en seconde, première, terminale S, S, E, E, S. Depuis déjà très longtemps.
Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux de vous rencontrer. Comme je l'ai dit ce matin, très heureux d'être ici au lycée de Kyoto, et puis d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Alors, répondre aux nombreuses questions, parce que je vois vos listes de loin qui sont longues. Et puis peut-être en dehors des questions, avoir d'autres questions ou d'autres sujets, si ça vient au fil de la conversation. Oui.
Posez, peut-être commencer à poser ça.
Bonjour, moi c'est Richard, nous représentons le lycée, seconde, première et terminale de cet établissement. Et merci d'être venu ici et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici dans notre lycée. Et donc, comme vous avez remarqué, nous avons préparé quelques questions sur l'AEFE et les relations qu'elle entretient avec le reste du monde et sur votre parcours et sur votre travail. Donc, nous allons commencer par des questions sur l'AEFE avec Fanny.
Tout d'abord, vous voulez savoir quelle est la place de l'AEFE dans les relations entre la France et le monde?
Alors, c'est une vaste question. Alors, pour vous répondre concise, l'agence, donc, d'abord, l'agence, elle existe depuis 1990, et c'est ce qu'on appelle en France un établissement public, c'est-à-dire donc une agence gouvernementale qui appartient donc, qui fait partie de l'administration française, mais qui a été créée pour donner une plus grande autonomie à la gestion du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Parce que avant 1990, il y avait déjà des écoles françaises dans le monde. Mais elles étaient, pour la plupart, elles étaient directement rattachées au ministère des Affaires étrangères. Et puis, comme au fil des années, il y avait de plus en plus d'écoles, les budgets devenaient de plus en plus importants, et donc le gouvernement de l'époque a décidé qu'il fallait donner une plus grande autonomie de gestion, donc on a créé cette agence. Et le rôle de cette agence, c'est donc de gérer, d'animer le réseau des écoles françaises dans le monde, dont vous faites partie, et qui sont donc... Alors cette année, il y en a 492. L'année prochaine, il y en aura quelques-unes de plus. Et donc, selon les cas, parce qu'après, il y a des différences dans la gestion des écoles, mais selon les cas, donc, on gère directement, ou on se contente, où il y a un partenariat, où on anime. Mais en tout cas, le rôle, c'est de s'assurer que ces écoles françaises dans le monde sont... marchent le mieux possible, grandissent, et alors, pour arriver directement à votre question, remplissent une mission qui est effectivement une mission qui fait partie de la politique étrangère française, qui est ce qu'on appelle maintenant une mission d'influence. C'est-à-dire que le rôle des écoles françaises, c'est de propager, de promouvoir la culture française, l'éducation française, la langue française dans le monde. On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a aussi, par exemple, les alliances françaises, il y a les instituts français. mais qui eux sont plus, alors soit c'est des activités de cours de français pour des adultes, enfin ça peut être d'ailleurs des jeunes aussi, mais des adultes, des activités culturelles, nous c'est vraiment l'enseignement. Et c'est bah, ce que vous faites ici, c'est-à-dire au Japon, bénéficier d'un enseignement qui suit les programmes français, qui suit les méthodes françaises, et qui est essentiellement en français, même si évidemment on apprend les langues étrangères. Et à la fois pour les familles françaises, parce que on est quasiment le seul pays, il y a l'Allemagne qui a un peu le même système que nous, on est quasiment le seul pays à offrir ce système, ce qui permet quasiment partout dans le monde à des familles françaises et donc à des élèves français de trouver un enseignement, je dirais, comme en France, ou presque comme en France. Donc ça, c'est important pour les Français qui vivent à l'étranger, et puis aussi pour les familles et pour les élèves étrangers. Comme je l'ai dit ce matin, je crois qu'il y a 2/3 d'élèves étrangers non français dans les écoles françaises à l'étranger. Et ça, le but, c'est d'offrir à ces élèves une éducation française, à la française, en français, et comme ça, d'en faire, de leur permettre, d'accéder à la culture française. Et du point de vue de la France, l'intérêt, c'est d'avoir une influence culturelle grâce aux élèves qui sont comme vous. Donc il y en a 350 000 dans le monde qui fréquentent une école française, et dont on espère évidemment après, on ne le fait pas seulement pour ça, mais on espère après qu'ils deviendront des amis de la France, d'abord ils parleront le français, ils diffuseront les valeurs françaises, la culture française. Et donc de ce point de vue-là, pour la France, et je vais m'arrêter là parce que sinon ça sera une trop longue réponse, c'est important parce que ça fait partie de l'ambition, je dirais, de la politique française d'avoir cette dimension culturelle. Il y a des pays qui se concentrent plutôt sur l'influence politique ou sur l'influence économique ou sur l'influence militaire. Bon, nous, ça nous intéresse aussi, mais parce que c'est la France, parce qu'on a une certaine ambition, on veut avoir cette dimension culturelle et linguistique dans notre politique. Donc, de ce point de vue-là, le réseau des écoles françaises à l'étranger, et donc l'agence qui l'anime, sont un élément important de la politique française à l'étranger, de la politique étrangère de la France, et donc des relations de la France avec son environnement. Voilà. Et puis après, je ferai des réponses plus courtes, parce que sinon on ne va pas y arriver. Alors, ça dépend du mode de fonctionnement des établissements. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a des écoles qui font partie intégrante de l'agence, qui sont des sortes de lycées publics à l'étranger. Et dans ce cas-là, alors c'est le cas par exemple en Asie, du Vietnam, enfin, Hanoï, Ho Chi Minh Ville, Pékin aussi. Et dans ce cas-là, l'agence, elle gère un peu tout, c'est-à-dire elle gère le budget, les personnels, les bâtiments, elle s'occupe de tout, pour simplifier, pour résumer. Après, il y a des écoles comme ici, donc c'est ce qu'on appelle une école conventionnée, c'est-à-dire c'est une école de droit privé, dirigée par un comité de gestion, où il y a les parents d'élèves, et cette école, elle a passé une convention avec l'agence. C'est pour ça que ça s'appelle conventionné. Et cette convention, elle prévoit que l'agence va donner une certaine aide, un certain soutien à l'établissement, sous la forme de mise à disposition de personnel, notamment. Mais ça peut être aussi des subventions, en échange d'une participation financière de l'établissement. Et puis, il y a une troisième catégorie d'établissements où là, il n'y a pas d'aide financière. Mais en revanche, il y a un accompagnement, un encadrement pédagogique, c'est-à-dire que, et ça concerne de toute façon toutes les écoles, et là le rôle de l'agence, c'est de s'assurer de la formation des enseignants, c'est de s'assurer de la conformité de l'enseignement qui est dispensé dans l'école au principe de l'éducation française, c'est d'organiser des activités culturelles, sportives, pédagogiques, qui concernent plusieurs établissements français différents et qui permettent aux élèves de faire des choses avec des élèves d'autres écoles françaises. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec toutes les écoles. Et par exemple, y a des rencontres. Alors ça peut être au niveau de l'Asie, ça peut être au niveau mondial, en football, en rugby, pour le sport. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ambassadeur en herbe, qui est une activité qui existe, une sorte de... Ça ressemble aussi au modèle des Nations Unies, c'est un peu le même esprit, donc de concours d'éloquence qui ont lieu, auxquels participent les écoles françaises. Et puis ensuite... il y a des finales par région, puis il y a une finale mondiale. Bon, enfin, donc c'est toutes ces activités-là. Il y a des compétitions en mathématiques, en physique. Voilà. Donc c'est toute l'animation de la vie pédagogique des établissements qui est assurée par l'agence. Oui. Alors non, elles sont pas gratuites, puisque à part quelques exceptions, à l'étranger, les écoles ne sont pas gratuites. Les écoles françaises ne sont pas gratuites. D'ailleurs, en général, les écoles étrangères ne sont pas gratuites, parce que le principe, c'est d'abord que ça coûterait trop cher à l'État français. Et puis l'autre principe, c'est de dire qu'en France, l'école est gratuite parce que les gens payent des impôts, et c'est les impôts qui permettent de financer les écoles. Et d'ailleurs, même les écoles privées en France, la plupart des écoles privées sont beaucoup aidées par le gouvernement. Alors elles ne sont pas gratuites, mais elles sont vraiment pas chères du tout. À l'étranger, on ne peut pas avoir le même système, donc c'est pour ça que les écoles sont payantes. Ce qui n'empêche pas certaines d'être publiques, puisque... Public, ça ne veut pas dire gratuit. Et service public, ça ne veut pas dire gratuit. En France, le métro, le train, la poste, c'est des services publics, ce n'est pas gratuit. Simplement, ça n'est pas le prix que coûte réellement l'opération, puisqu'il y a une participation financière du gouvernement. Donc voilà. Et on a effectivement, j'ai dit qu'il y avait à peu près 500 écoles dans le... un peu moins, 492 cette année. Et à l'intérieur de ça, il y en a 75 qui sont donc ces écoles qu'on appelle en gestion directe. Ça, c'est le jargon administratif. Et qu'on peut considérer comme les lycées publics à l'étranger. Et c'est pour la plupart... les trois en Asie, c'est un peu une exception, d'ailleurs. Mais la plupart de ces lycées publics, en fait, c'est tout simplement les lycées les plus anciens, ceux qui existent depuis le plus longtemps. Parce qu'en fait, pendant toute une période... Il y a seulement eu l'État qui crée ces écoles à l'étranger, à Londres, en Europe notamment, dans les anciennes colonies françaises, ou dans les anciens territoires français. Et puis après sont arrivées les nouvelles écoles qui étaient, elles, privées, parce qu'elles n'étaient pas à l'initiative de l'État, mais à l'initiative soit de parents d'élèves, soit de sociétés. Et donc, grosso modo, depuis 30-40 ans, toutes les nouvelles écoles sont plutôt des écoles privées. Voilà. Et puis après, il y a eu quelques modifications, mais c'est moins intéressant et c'est rentré dans le détail. Parfois, c'est le gouvernement du pays où nous sommes qui exige que l'école ait tel ou tel statut. Et en Chine, c'est ce qui s'est passé, et au Vietnam aussi, d'ailleurs. Voilà. Et alors, pardon, pour être tout à fait complet, il y a quelques exceptions, parce qu'il y a dans le système français, mais ça vous devez le savoir, il y a toujours des exceptions.
C'est comme en orthographe.
Comme en grammaire, comme en orthographe. Et donc dans notre système, c'est pareil. Et il y a quelques endroits, par exemple en Allemagne, où on a des écoles françaises, mais qui sont en fait intégrées dans une école allemande, qui est, elle, une école publique. Et comme c'est une école publique allemande en Allemagne, ben là, c'est gratuit. Et en fait, le gouvernement allemand donne de l'argent. Et là, ces écoles-là sont gratuites. Mais c'est vraiment quelques exceptions. Et il n'y a que... je ne suis pas sûr qu'en dehors de l'Allemagne... Je me tourne vers mon nom. Je crois qu'il n'y a qu'en Allemagne où il y a des écoles gratuites. Voilà.
Vous avez dit qu'il y a des lycées français qui pouvaient être créés à l'initiative d'entreprise. Mais vu que c'est des entreprises... Donc c'est possible que des entreprises privées forment des lycées français homologués par l'EFE, mais il y aura un certain conflit d'intérêt entre certaines entreprises et l'enseignement français.
Non, alors il y a soit des entreprises qui créent ou qui suscitent la création d'une école. Alors on appelle ça une école d'entreprise dans ce cas-là. Imaginons, ça s'est passé en Chine par exemple. Peugeot s'installe à, je ne sais plus si c'était à Wuhan ou dans une ville où il n'y a rien du tout. Pour fonctionner, en tout cas au début, ils ont besoin de cadres français qui n'acceptent de venir évidemment que s'il y a une possibilité de scolarité pour leurs enfants. Et dans ce cas-là, Peugeot va dire « moi j'ai besoin d'une école française parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire venir les Français ». Alors comme Peugeot, son métier c'est de faire des voitures, c'est pas de faire des écoles, c'est pas eux directement qui font ça. Et ils demandent à un opérateur qui peut être une société privée, une association, dit « voilà, moi je vous donne l'argent et vous créez une école ». Et après l'homologation c'est la certification que l'école suit les programmes français. Et ça, c'est vrai que l'agence participe à ça, mais formellement, c'est le ministère de l'Éducation nationale français qui donne l'homologation. Et puis après, l'autre chose qui existe, c'est des sociétés, des compagnies privées, qui sont, elles, dans le business, je dirais, c'est de faire des écoles. Alors, ça peut être des petites PME, ça peut être, en général, pour ce qui concerne les écoles françaises, c'est ça pour l'instant. Dans le monde des écoles anglo-saxonnes, plutôt britanniques, plutôt américaines, là, il y a des sociétés très importantes qui ont des écoles partout dans le monde parce que c'est un secteur économique. Et dans ce cas-là, elles sont en général plus chères parce qu'elles ne bénéficient pas d'aide de l'État. Mais l'homologation, c'est simplement la vérification de la qualité de l'enseignement, de la conformité de l'enseignement aux principes français. Et ça peut se faire quel que soit le modèle économique de l'école. Donc nous, notre travail par rapport à ce que vous dites sur le conflit d'intérêts ou concurrence, c'est le travail de l'agence et puis dans chaque pays avec les ambassades. C'est notamment, par exemple, imaginez ici il y a une école, une société ou des particuliers, ça peut être à la limite une seule personne, un investisseur, dit tiens moi j'aime bien Kyoto, je vais créer une autre école française. Alors là, on va regarder parce que dans certains endroits, ça peut être utile parce que l'école, la première école, elle est pleine et elle a atteint ses capacités. Donc il y a de la place pour une deuxième école. En revanche, ici, ça serait clairement pas une bonne idée d'avoir deux écoles françaises. Donc là, on regarderait ça et si on estime que c'est pas une bonne idée, bah, alors soit on essaye de dissuader et on dit aux gens bah, non, faites pas cette école à Kyoto, c'est pas une bonne idée, éventuellement aller dans une autre ville au Japon peut-être où il n'y a pas d'école française. Et puis si jamais ils veulent continuer avec leur idée, bah, ça, dans ce cas-là on risquerait de, enfin ce qu'on pourrait faire c'est bloquer, pour le coup refuser l'homologation, pas sur un critère pédagogique mais sur une question de cohérence du système de l'offre scolaire française.
Donc vous pouvez exercer un pouvoir de contrôle sur la création ou non des lycées à l'étranger.
Alors sur la création non, parce que n'importe qui peut ouvrir une école et puis appeler ça école française, enfin en fonction de la loi locale bien sûr, mais en revanche sur l'homologation là oui, mais il y a des pays où il y a des écoles françaises des écoles qui prétendent, enfin, qui considèrent être françaises, mais qui ne sont pas reconnues par la France. Alors après, elles jouent sur le fait que ben, les gens qui sont au courant, ils savent faire la différence. En général, ils savent quand même la réputation de telle ou telle école. Mais il peut y avoir des cas où les gens se font un peu tromper, je dirais, parce qu'il n'y a pas, une marque déposée, il n'y a pas un copyright sur le terme école française. Donc c'est pas la création qu'on peut bloquer, mais en revanche c'est l'homologation, oui. Si on considère que c'est pas positif pour l'offre française, dans ce cas-là on peut bloquer l'homologation. Mais c'est concrètement c'est pas des cas qui se présentent très très souvent. Alors. Oui.
Y a-t-il des critères précis à respecter pour pouvoir appartenir à la FE?
Alors, pour. C'est pas tellement appartenir à l'AEFE, c'est pour être homologué. Oui, pour être homologué, c'est suivre les programmes français avec une marge d'adaptation, parce qu'à l'étranger, il y a des choses qui ne sont pas exactement les mêmes qu'en France. Notamment, il y a plus de langues vivantes, de langues étrangères qui sont enseignées, notamment en général, la langue du pays est enseignée de la maternelle. Donc il y a une petite adaptation, mais globalement, il faut suivre, il faut que les programmes de maths, de physique, de français, de PS, enfin, toutes les matières soient suivies. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut que l'école prépare aux examens français, donc le brevet et le bac. Il faut que l'école dispose, ça dépend de la taille, mais d'enseignants titulaires de l'éducation nationale française, au moins une partie. Et puis après, il y a d'autres enseignants qui sont des recrutés locaux, qui ne sont pas des titulaires. Et puis il faut suivre un peu, je dirais, au-delà des programmes, des examens, c'est un peu les valeurs de l'éducation française. Et les grandes règles de l'enseignement français et des écoles françaises. Donc ça peut concerner la gouvernance des établissements, le principe de laïcité. Alors là aussi, avec des adaptations dans certains pays en fonction des législations locales. Les grandes valeurs de l'éducation, notamment le fait que l'éducation est faite pour tous. Une école qui suivrait les programmes, mais qui dirait par exemple, moi je n'accepte que les élèves de tel pays, de telle confession, de telle catégorie, ça c'est pas conforme au principe de l'éducation française, même si le niveau était très bon. Donc c'est à la fois, je dirais, assez précis, mais avec quand même une marge d'adaptation, parce que d'abord parce qu'on est à l'étranger, parce que toutes les écoles n'ont pas les mêmes moyens, parce qu'il y a des tailles toutes différentes. Ici, vous êtes dans une école plutôt petite, vous en avez des moyennes, vous en avez des très grosses, donc on ne peut pas exiger la même chose d'une école avec 150 élèves, d'une école avec 1000 ou 3000 élèves, puisqu'il y en a qui font 3000 élèves. Et puis après, on est obligé aussi de s'adapter à la loi locale. Il y a des pays, par exemple, où la loi locale impose d'avoir un certain nombre d'heures d'enseignement de la langue du pays. Par exemple, au Maroc. Et en plus, ça change selon que les enfants sont français, sont marocains ou pas marocains. Mais dans nos lycées français au Maroc, pour les élèves qui sont marocains, ils ont un nombre d'heures. Il faut respecter un nombre d'heures d'enseignement de l'arabe par semaine. Dans certains pays, il faut enseigner la culture locale. Enfin, on essaye toujours de le faire, mais en l'occurrence. Et puis il y a des pays qui, nous, on inspecte les écoles pour voir justement si tout se passe bien. Et il y a des pays qui ont leur propre inspection des écoles étrangères qui sont chez eux. Et donc là, pour le coup, si l'inspection n'est pas favorable, l'école ne peut plus fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'adapter aux circonstances locales.
Et c'est juste une question à part de l'AEFE, mais cette adaptation, est-ce qu'elle peut se faire dans des lycées français en France? C'est-à-dire que, est-ce que dans un lycée en France, si le lycée il est petit, il n'a pas beaucoup d'élèves, est-ce qu'on peut par exemple dire, bon, ce professeur, même s'il n'a pas un vrai diplôme, il peut enseigner?
Alors, il y a des adaptations. Alors, les professeurs... Bah oui, parce qu'il n'y a pas que des titulaires dans les écoles françaises. Déjà parce qu'il n'y a pas assez de titulaires. L'éducation nationale manque de professeurs. Donc si vous voulez devenir professeur, c'est un bon créneau parce qu'il y a de la place. Donc ils recrutent des non-titulaires. Après, il y a des adaptations aussi sur les programmes. Il y a des écoles qui ont une importance, qui donnent une importance plus grande aux langues étrangères. Il y a les classes bilingues dont on a beaucoup parlé parce qu'elles existaient, elles ont été supprimées, elles ont été remises. Et puis il y a des écoles qui se spécialisent sur, ça peut être sur l'éducation artistique, sur l'éducation sportive. Alors ça concerne, statistiquement parlant, ça concerne une petite proportion, je ne sais pas exactement combien, mais c'est vrai qu'en France, la plupart des écoles, elles suivent vraiment le même modèle. Mais vous avez quand même ici et là des différences. Et puis après, Oui, bah, les écoles, les petites écoles primaires à la campagne. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais moi, j'ai même connu ça pendant une année. Vous avez des toutes petites écoles primaires à la campagne où vous avez une seule classe et vous avez tout le monde, enfin, tous les enfants de 5 ans au CM2. Puisqu'en France, vous le savez, il y a l'école en général, l'école est à part, le collège et puis le lycée, c'est pas ensemble. Donc, et cette petite école-là, elle n'a rien à voir avec une école qui va être en ville avec 30 classes de primaire. Donc, quelle est la question suivante? Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des différentes exigences au niveau des épreuves nationales, par exemple du baccalauréat ou du brevet, entre les différentes régions? Parce qu'on a vu, enfin, il me semblait avoir vu, par exemple, que dans certaines régions du monde, comme en Amérique du Nord, il me semble, la calculatrice était tout le temps autorisée en physique-chimie, alors que dans la région Asie, elle était là. C'était l'endroit où elle était le plus non autorisée.
Alors ça, c'est une bonne question. Et en général, quand il y a une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, je me tourne vers mes voisins.
Moi, j'allais dire que c'est parce que les...
Ça, j'avoue que je ne sais pas. Sur la calculatrice.
Parce que ceux qui sont en Asie sont très forts en calcul mental.
Bah, voilà, ils n'ont pas besoin de calculatrice. Alors qu'en Amérique du Nord, ils ont besoin qu'on les aide. Non, je ne sais pas ça.
J'avoue. Ah, c'est une bonne question. Oui. Bon, hormis le fait qu'effectivement, de toute façon, vous êtes de bien meilleurs élèves qu'en Amérique du Nord. L'Asie Pacifique est largement devant toutes les autres zones. Et je le dis en blaguant, mais c'est vrai en termes de résultats aux épreuves du baccalauréat. Enfin, l'Asie Pacifique est quasiment à 100% de résultats. Eh oui, 99, alors ça ne fait pas très sérieux. Hein, de façon que, alors que les épreuves, et ça va répondre à votre question, les épreuves sont effectivement les mêmes. Hein, vous ne passez pas exactement la même épreuve que dans d'autres zones, mais elles sont sélectionnées dans la même banque d'épreuves. C'est-à-dire que les épreuves du baccalauréat, qu'on les passe en France, qu'on les passe aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Asie-Pacifique, elles sont fabriquées de la même manière, dans une banque commune, et ensuite elles sont tirées au sort et elles sont envoyées en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en France, dans les différentes régions. Et ensuite, les règles qui conduisent effectivement à l'utilisation ou non de la calculatrice dans votre exemple normalement sont les mêmes, donc c'est l'exemple que vous citez n'est pas a priori normal, il n'est pas normal qu'on retrouve une interprétation différente.
Ça dépend, ça dépend peut-être du sujet dans ce cas-là.
Voilà, ça peut dépendre du sujet, et puis on sait de toute façon qu'il y a une question autour de l'utilisation de la calculatrice et du type de calculatrice, puisque le sujet, il est même plutôt sur le type de calculatrice. On va en avoir la preuve dans quelques semaines. Au-delà de la même manière, on a pu penser à une certaine époque que les épreuves du baccalauréat n'étaient pas forcément corrigées de la même manière d'une zone à une autre. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais vos épreuves du baccalauréat, elles sont dématérialisées, elles sont envoyées à des correcteurs dont on ne sait pas d'ailleurs où ils sont. Dans le système en interne, on le sait, mais vous ne le savez pas et beaucoup ne le savent pas. Et donc, de fait, vous pouvez être corrigé par des correcteurs qui sont un peu éparpillés dans différents endroits. Et donc, il n'y a pas de différence de correction entre l'Asie-Pacifique, la France, la région parisienne, Grenoble ou les États-Unis.
Après, c'est des questions qui se posent tout le temps et qui existent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au moment de la correction, sur le même sujet, dans une région donnée, il y a une concertation entre les correcteurs pour voir s'il n'y a pas une différence trop forte entre tel paquet de copies, parce qu'il peut y avoir un prof qui va mettre des notes très sévères à tout le monde, et puis un autre qui va mettre 18 à tout le monde, et donc là, il y a un système qui permet de regarder, d'harmoniser les choses. Parfois, il y a un problème, parce qu'on en parle dans ce cas-là, dans les journaux ou à la radio, parce qu'il y a un sujet dans une région qui a été jugé particulièrement difficile par rapport au sujet qui était donc celui de Lyon, qui avait des équations beaucoup plus compliquées que ce qui était demandé à Marseille ou à Paris. Et dans ce cas-là, les spécialistes donc, vont regarder le sujet. Et puis ils vont dire, bah non, en fait, c'est pas, c'est pas spécialement difficile. Enfin, c'est pas plus difficile que les autres, donc on change rien. Et puis parfois, ça arrive où là, il y a un inspecteur de physique qui va regarder le sujet, qui va dire ah oui, là effectivement, c'était très compliqué comme énoncé pour un sujet de bac, et donc ça crée une inégalité par rapport aux autres sujets. Et dans ce cas-là, bah, il y a des consignes qui sont données. Alors ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Ça arrive. Des consignes qui sont données, de relever les notes. Parce qu'évidemment, tout le monde se retrouvait avec 5 sur 20, parce que c'était plus un sujet qu'on aurait donné en licence qu'un an ou deux ans après le bac, qu'un sujet de terminale. Enfin, ça peut arriver, c'est surtout sur les matières scientifiques que ça arrive. Après, l'inégalité, elle existe forcément. Les sujets de philo, par exemple, vous pouvez très bien trouver le sujet que vous allez avoir à Paris. Facile parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Bon, et puis le sujet de Marseille, ça sera sur, je sais pas, l'art ou sur, et là ça vous inspire moins. Donc, mais c'est pas, parce que à partir du moment où les sujets sont pas les mêmes, il y a forcément une différence. Mais ça veut pas dire qu'il y a une inégalité entre les zones. En tout cas, ce qui est recherché, c'est d'avoir la plus grande égalité de traitement de tout le monde.
Dans quelle zone du monde y a-t-il le plus d'établissements français ?
Alors, en nombre d'établissements, alors ça dépend comment on découpe les zones, mais en nombre d'établissements, c'est plutôt l'Europe. En nombre d'élèves, c'est l'Europe et la Méditerranée. Disons que, je regarde la carte là, derrière vous, si vous prenez l'Europe et le bassin méditerranéen, donc l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, vous devez avoir les deux tiers des effectifs dans le monde. Alors, c'est un peu logique parce que pour l'Europe, parce que l'Europe, c'est la moitié des Français qui vivent à l'étranger vivent en Europe. Donc les communautés françaises sont très importantes, et notamment dans les pays les plus proches de la France. Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, la Suisse. Et puis ensuite, vous avez le Maghreb et le Proche-Orient, Maroc, Algérie, un peu moins, Tunisie, Liban, qui sont des pays où il y a évidemment une forte tradition francophone, et où là, alors il y a les Français qui vont dans ces écoles-là, mais il y a aussi une bonne partie de la population locale qui a une tradition d'aller dans les écoles françaises. Donc voilà. Après, vous avez... après, c'est un peu réparti partout, c'est-à-dire que en Asie, ça a progressé. Il y a 40-50 ans, il y avait quasiment rien. Enfin, à part bon, le Vietnam, parce qu'il y avait une histoire avec la France, Pondichéry, dans le sud de l'Inde aussi, parce qu'il y avait une histoire avec la France. Mais sinon, il y avait très peu de choses, parce que les communautés françaises étaient quasiment inexistantes. Je pense qu'il y a 50 ans ici, à Kyoto, il y avait zéro français ou presque zéro français. Et donc tout ça a commencé dans les années 70, 80, 90. Et là aujourd'hui, sur l'Asie, on est à donc, 21 000 élèves. Donc ça fait moins de 10% du... Non, ça fait même... Ah ce que je dis, ça fait 7-8% du total. Donc c'est Europe, Méditerranée, et puis après Afrique noire, Amérique du Sud aussi. Beaucoup d'établissements, et puis après c'est des effectifs moins importants. Oui.
Envisagez-vous de créer des écoles supérieures françaises à l'étranger, par exemple des classes préparatoires en Asie ou quoi ?
Alors l'enseignement supérieur, c'est pas dans la mission de l'agence. Donc, il se trouve que ça commence à se développer parce qu'il y a des grandes écoles et des universités françaises qui développent leurs activités à l'étranger et qui créent des campus ou des écoles, par exemple l'ESSEC, l'HEC, l'UTC, par exemple, l'Université de technologie de Compiègne, Donc il y a des universités ou des grandes écoles qui se développent à l'étranger. La seule chose qu'on a, nous, mais on a ça que dans deux endroits, on a effectivement des classes prépa aux grandes écoles à Maroc et Vienne. Voilà, c'est ça. Maroc et Autriche. Donc c'est un peu des exceptions. On s'interroge d'ailleurs sur la question de savoir si on les gardera longtemps parce qu'il n'y a pas énormément d'élèves.
Et c'est des papas éco.
Et c'est éco. Voilà. Donc c'est un peu une exception, mais disons que notre vocation c'est vraiment l'enseignement jusqu'au bac. Alors après, on s'intéresse évidemment au lien avec la suite, mais ça passe plutôt par des accords avec des grandes écoles, et puis je vous dis par le fait que. Parce que tous les élèves ne peuvent pas venir en France, et en tout cas ne peuvent pas tous venir en France, ou n'ont pas envie de venir en France après le bac. Et donc c'est pour ça que les grandes écoles se disent, au lieu de faire venir un élève du Japon à HEC à Paris, ben, tiens, on va créer un campus. Alors en l'occurrence à Singapour, c'est l'ESSEC. C'est l'ESSEC, hein, oui. L'ESSEC a créé un campus à Singapour. Et l'idée, c'est que les étudiants commencent leur parcours à Singapour, puis après ils vont en France pour partir de la troisième année, je crois. Enfin, je ne sais plus comment ça s'organise. Mais... Donc ça va se développer. Au Maroc, justement, il y a aussi...
Donc là, c'est un parcours bachelor.
Sur les sur Singapour, un, sur c'est un parcours bachelor. Sur un bachelor.
C'est pas un parcours comme voilà. Ça.
Mais l'agence, la vocation de l'agence, c'est vraiment de rester sur l'enseignement scolaire, donc jusqu'au bac. Alors, il y a deux étapes. Donc l'AEFE, comme j'ai dit, c'est une agence de l'État. Donc une partie de son budget vient de l'État. Donc la réponse directe à votre question, c'est à peu près, il y a 500 millions d'euros d'argent public qui vient du budget de l'État dans le budget de l'agence chaque année. Et très précisément, à peu près 400 millions de ce qu'on appelle une subvention de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment pour participer au financement du fonctionnement de l'agence. Et puis il y a 100 millions pour les bourses scolaires, puisque, comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous en bénéficient, on a un système de bourses scolaires pour les familles dont les revenus ne suffisent pas pour payer justement la scolarité, et qui est la conséquence, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, comme les écoles sont payantes à l'étranger, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais comme on veut quand même ne pas exclure des familles françaises à cause de questions financières, on a depuis très longtemps, on a ce système de bourse. Et ça coûte grosso modo un peu 100 millions d'euros, donc c'est 100 millions d'euros que le gouvernement donne à l'agence et qu'ensuite l'agence donne aux établissements scolaires pour remplacer l'argent que les parents ne peuvent pas payer. Voilà, donc le contribuable français, l'ensemble des contribuables français donne 500 millions d'euros par an à l'agence. Mais comme ça suffit pas pour payer notamment tous les enseignants et tout ce que l'agence fait, on a aussi une partie de l'argent qui vient justement des parents d'élèves. Donc c'est un... Le système à l'étranger, c'est un cofinancement. Donc une partie de l'argent vient de l'État et une partie de l'argent vient des parents d'élèves. Par rapport à la comparaison dans les écoles internationales, si vous prenez, il y en a une ici, je crois, à Kyoto, l'école internationale, les écoles internationales anglo-saxonnes, disons, d'inspiration américaine ou britannique, elles sont financées à 100% par les parents. Donc là, il n'y a aucun financement de... soit des États-Unis, soit de la Grande-Bretagne.
Je voulais demander s'il y a, selon vous, un caractère élitiste à l'éducation offerte par les établissements de l'AFE ou des écoles étrangères. Parce que, en remarquant que le niveau de. Je suis passée d'une école à l'étranger et je suis retournée dans une école publique en France et j'avais un niveau beaucoup plus élevé que les élèves de ma classe. Alors, je voulais demander si c'était construit comme ça ou pas.
Alors, c'est une bonne question. C'est parfois une critique qu'on adresse aux écoles à l'étranger, parce qu'on dit, justement, parce qu'elles sont payantes, c'est des écoles pour les riches. Je résume, hein, mais... alors, nous, on considère que c'est une critique injuste, parce que, et en tout cas, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas la réalité. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a des bourses scolaires qui permettent aux familles qui ont des revenus modestes de pouvoir quand même accéder à l'enseignement en France, français à l'étranger. Après, c'est vrai que, je vous dis, le système ne peut fonctionner que parce que les écoles sont payantes. Donc c'est vrai qu'il y a des... Et il y a certaines familles qui sont un peu trop riches pour avoir droit à une bourse, mais pas suffisamment riches pour que, notamment s'il y a plusieurs enfants, pour que le fait de payer 5 000, 6 000, 10 000 euros par an, par enfant, soit quelque chose de possible. Donc, malheureusement, il peut y avoir des situations où, pour des raisons financières, des familles ne vont pas venir dans les écoles. Mais je vous dis, c'est quand même... Et puis, s'agissant des familles qui ne sont pas françaises, comme elles ne peuvent pas bénéficier de ce système de bourse, là, c'est clair qu'on a plutôt des familles qui sont de classe moyenne, moyenne, supérieure, parce que c'est elles qui peuvent payer cet enseignement. Mais je dirais que ça, c'est un peu inévitable. Mais... En tout cas, si on compare avec les autres écoles internationales dans le monde, les écoles françaises, c'est toujours les moins chères, parce que ici, ça se vérifie comme dans les autres endroits. En général, les écoles anglaises, américaines, elles sont deux fois, trois fois, quatre fois plus chères. Alors, elles, on peut dire qu'elles sont vraiment élitistes. Alors après, ça, c'est l'aspect financier. Après, il y a l'aspect qualité de l'enseignement. Et là, je dirais que on cherche la qualité, et c'est de l'élitisme, mais alors dans ce cas-là, au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment, enfin, on cherche l'excellence. Et quand on dit l'excellence, c'est un terme qu'on emploie un peu trop souvent, d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire chercher le meilleur niveau possible pour tout le monde. Et ce qui peut jouer, ce qui peut conduire à ce que vous dites sur le sentiment que vous avez eu entre l'étranger et la France, c'est que c'est vrai que dans une école française à l'étranger, il y a des conditions d'enseignement qui, en général, sont plus favorables qu'en France. Il y a moins d'élèves par classe. Il y a aussi le fait que, comme on est par définition à l'étranger, vous êtes, quelle que soit votre nationalité, votre parcours, vous êtes déjà plus ouvert sur un certain nombre de choses, sur les langues étrangères. Par exemple, le niveau, clairement, le niveau que vous avez en anglais, en japonais par définition, mais en anglais, en allemand, en russe, si on prend les grandes langues internationales, il est meilleur à l'étranger qu'en France. Parce que c'est normal, parce que vous êtes déjà dans un environnement international. Donc ça, c'est la qualité des enseignants. C'est les conditions générales d'enseignement qui font que, effectivement, par rapport à la moyenne des écoles françaises, peut-être que il y a cette impression de... Mais c'est, encore une fois, on le voit sous une forme positive, je dirais, de la qualité. Ce qu'on veut faire aussi, parce que pour nous c'est important, c'est ne pas arriver à la qualité en écartant au fur et à mesure les élèves qui ont plus de difficultés. Parce que ça peut être une tactique, alors pour le coup, notamment d'établissements privés en France ou privés dans d'autres pays, qui disent, regardez, j'ai 100% de réussite au bac, et donc je suis la meilleure école de Paris ou je suis la meilleure école de France, mais elles ont 100% de réussite au bac en écartant au fur et à mesure tous ceux qui sont pas forcément mauvais, mais qui sont pas dans au top. Et évidemment, si vous écartez au fur et à mesure tous ceux qui ont un peu plus de mal que les autres en maths, en physique, etc., bon, à la fin, vous avez 100%. Mais ça, c'est pas la conception, parce qu'on reste une agence publique, donc c'est pas la conception de l'enseignement français. Ce qui veut dire que Nous, on est effectivement dans les écoles à l'étranger, on est à 97% de réussite au bac. En France, maintenant, on est à 92%, je crois, sur le bac général. Mais on ne le fait pas en écartant les gens au fur et à mesure. On le fait en essayant de... Ben, s'il y a un élève qui a un peu plus de mal en physique, en maths, que les autres... je me souviens de mon cas personnel, parce que moi, les maths, c'était une catastrophe. Et ben, on essaye de l'accompagner pour qu'il réussisse en maths, plutôt que de lui dire, bon, ben, allez, hop, l'année prochaine, vous allez... alors, en France, on va dire ça, hop, vous allez bifurquer vers une filière STMG, par exemple, parce que dans la filière générale, on veut garder que les meilleurs. Donc ça, c'est pas notre conception du tout. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des écoles dans certains pays où on a un peu plus de mal à imposer cette vision-là parce que c'est très ancré dans les traditions du pays, aux États-Unis par exemple. Mais voilà, pardon, c'était de nouveau une réponse longue. Ça. Mais c'est des bonnes questions qui mériteraient des longs débats.
Réponse longue
égale Verdon.
Vous opérez pas cette sélection-là parce que vous êtes un établissement public, c'est ça? Parce qu'on peut voir dans certains établissements publics, on peut voir les grands lycées publics à Paris, ou même avant de venir ici, j'étais au lycée international à Saint-Germain, clairement, il y avait beaucoup plus d'élèves au collège qu'en terminale. C'est-à-dire en primaire, quand j'y suis rentré, on était peut-être en section japonaise, en classe de 15-20, et en terminale, il se retrouvait à 1, 2, 3 personnes. C'est un lycée public. Donc cette sélection, elle peut aussi se faire dans les établissements publics.
Oui, si vous prenez, oui, c'est quelques lycées, c'est quelques lycées du haut du panier, c'est du haut du classement. C'est vrai que pour... Alors honnêtement, je ne sais pas dans le détail comment ils procèdent pour les élèves qui rentrent dès le début et qui éventuellement sont un peu moins bons que les autres. Ça, j'avoue que je ne sais pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est que si un élève veut rentrer en cours de route dans ce lycée, bon, ben là, on va regarder son dossier. D'abord, il n'y a pas beaucoup de place. Et là, ils vont prendre que les élèves vraiment très, très bons. Ça, c'est clair. Mais je ne sais pas, j'avoue, je sais pas si un élève, par exemple, en quatrième à Louis-le-Grand est moyen, est-ce qu'il va pas avoir la possibilité de continuer?
Il change de lycée.
Il va être poussé vers la sortie. Donc effectivement, il y a ces quelques exemples, mais là pour le coup, c'est aussi lié au fait que ça se passe en France et que bah, y a une possibilité d'aller dans un autre lycée qui peut par ailleurs être très bon aussi à Paris. À l'étranger, on peut pas se permettre ça parce que on ne sort jamais un élève du lycée. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire interrompre sa scolarité et éventuellement l'empêcher, parce qu'il n'y a pas forcément un autre... Là, celui qui sort de Louis-le-Grand, bon, ben, il doit pouvoir se récupérer, parce qu'il ne doit pas être quand même trop mauvais, donc il se récupère dans un autre lycée de l'arrondissement d'à côté. À l'étranger, on ne peut pas faire ça. Donc, en tout cas, dans les lycées, je dirais, la première catégorie dont je parlais, là où on a toutes les manettes, on va dire.
C'est une question un peu hors AEFE, mais je voulais...
Mais il n'y a pas que l'AEFE dans la vie. Hein, donc,
ne pensez-vous pas qu'il y a une volonté, enfin, du moins, même si elle est un peu indirecte, de la part de l'éducation nationale, d'orienter les élèves, dès même la primaire et le collège et le lycée, de faire des longues études? Et inconsciemment, je trouve que les élèves considèrent un peu les études courtes qui mènent à des métiers, par exemple, d'artisanat, enfin de tout ce qui est vraiment des métiers de la main.
Manuel.
Enfin, j'ai l'impression que de plus en plus, les lycéens pensent que ces métiers-là sont moins intéressants et moins importants que les autres.
Oui, alors je ne sais pas si c'est nouveau, parce que ça fait assez longtemps, à mon avis, qu'il y a ce sentiment-là. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet en France, qui est un débat en ce moment d'ailleurs, qui est revenu à l'occasion des débats sur l'université, sur l'entrée à l'université. Y a une attitude en France vis-à-vis des études courtes, de l'apprentissage, qui est différente de d'autres pays. Il y a des pays où la majorité des élèves vont vers les filières techniques, apprentissage courtes, et puis une minorité va vers les études longues, sans que ce soit considéré comme dégradant ou infamant. C'est un choix, et puis c'est aussi la réalité que tout le monde ne veut pas ou ne peut pas faire des études jusqu'à 28 ans et faire médecine ou faire autre chose. Et qu'il vaut mieux dans ce cas-là, en Allemagne par exemple, c'est un peu un fonctionnement comme ça, mais dans des pays d'Europe du Nord aussi, il vaut mieux orienter les gens vers des filières qui sont de qualité, qui vont donner des débouchés professionnels, qui correspondent si possible aux souhaits des gens, aux capacités des gens, plutôt que tout le monde aille, c'est un peu le raisonnement actuel, plutôt que tout le monde aille à l'université et ensuite, avec un taux d'échec important à la fin de la première année d'université, et puis sur des filières qui n'ont pas forcément de débouchés professionnels. Donc, alors, est-ce que les choses vont réussir à changer en France ? Ça, c'est difficile à dire. Le président Macron, il parle beaucoup de l'apprentissage, par exemple, parce que l'apprentissage, c'est peu développé en France, alors que c'est très développé en Allemagne, et que c'est une façon de valoriser les parcours, d'offrir, encore une fois, un débouché professionnel. Mais il faut changer... C'est ce que vous disiez, il faut changer la perception, il faut changer ce qui se passe dans la tête des élèves et de leurs parents. Parce que c'est aussi les parents qui se disent non, moi, mon fils, ma fille, il ne va pas faire ça parce que ça, c'est pas bien. Quoi. Donc ça, ce genre de choses, ça prend du temps. Mais je vous dis, je ne pense pas que ce soit nouveau. La différence, évidemment, c'est qu'il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y avait peut-être 20% d'une classe d'âge qui allait au-delà du bac, qui allait à l'université. Aujourd'hui, c'est 80 ou 90% qui fait des études supérieures. Et c'est ça qui a provoqué d'abord tous ces débats sur l'université, parce que évidemment, ça a changé complètement la nature, le public, la taille des universités, les débouchés. Et donc, c'était à la fois positif de dire il faut que les gens puissent poursuivre des études, mais on a peut-être loupé une étape à un moment donné de dire poursuivre des études, oui, mais pas forcément toutes les mêmes, et en les valorisant, les organisant mieux que ça, notamment par rapport à la question des débouchés professionnels, parce que c'est quand même l'un des buts des études, c'est de pouvoir ensuite déboucher sur une profession. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas une réponse à votre question, il y a des avis différents, mais je pense que, et c'est un peu ce qui commence à se passer aujourd'hui, je pense qu'il faut de toute façon réfléchir à justement quel a été l'effet de cette politique qu'on a menée pendant 30-40 ans, qui était surtout de dire il faut que le pourcentage d'élèves qui suivent des études supérieures augmente. Bon, c'était bien, mais maintenant, il faut voir comment on organise ça, sur quelle filière, et éviter d'avoir la situation de l'université dont on parle beaucoup en ce moment, avec des gens qui sont là, qui se retrouvent là, sans forcément avoir voulu aller là, dans une filière qui a, où ils ont 20% de chances de trouver un métier après, où ils sont 70 dans un amphi, alors que pendant ce temps-là, il y a d'autres métiers, des spécialités où on manque de formation.
Et le sentiment que j'ai, c'est, on est à peu près du même âge, c'était aussi à notre époque très, très, très mal vu de faire des études courtes. Hein. Moi, je me souviens de mon discours même en famille où vraiment les études courtes, il fallait vraiment aller jusqu'au bac. J'ai le sentiment que maintenant, on essaie de mettre en place quand même des passerelles entre les deux. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut faire des études courtes et puis avoir envie tout d'un coup, parce que c'est vrai que vous avez des vies qui vont changer. C'est-à-dire qu'on était parti à une époque sur un métier qu'on pouvait garder sur la vie. Maintenant, c'est plus le cas. Vous allez avoir des métiers différents. Et justement, il y a des passerelles qui se créent. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des études courtes et puis avoir des passerelles qui permettent de recommencer ses études et puis d'aller plus loin. Donc il y a des choses qui bougent quand même à ce niveau-là. C'est en tout cas le sentiment que que ça donne par rapport à ce qu'on pouvait vivre nous en tout cas.
Oui, tout à fait.
En restant sur ce sujet de l'université, il y a eu une réforme qui a fait que l'accès à l'université a été complètement changé cette année. On a changé le logiciel, c'est passé de la TV à Parcoursup. Justement, c'est, si, moi, je vais me permettre d'appeler ça comme ça, c'est forme de sélection à l'université. Vous en pensez quoi en tant que directeur de la vie?
Alors, sur le fond, je vais peut-être avancer mon devoir de réserve, parce que par définition, en tant que fonctionnaire, j'approuve et soutiens toutes les réformes. Le constat qui a été fait, c'est que ça rejoint un peu la question d'avant, c'est que pendant toute une période, le but, c'était donc tout le monde doit rentrer. Enfin, tout le monde doit avoir le droit à des études supérieures. Ce qui a d'ailleurs été interprété comme tout le monde a le droit d'aller à l'université, alors que études supérieures, ça peut vouloir dire d'autres filières, justement. Donc, c'est ce qui s'est fait. On a construit des universités et tout le monde, de plus en plus de gens avaient le bac et ensuite continuaient à l'université. Et puis, on arrive au fait que dans certains endroits, il n'y a plus de place et les conditions d'enseignement sont catastrophiques. Et là, pour le coup, par rapport à moi, ce que j'ai connu il y a un certain nombre de dizaines d'années. Donc, vous avez à la fois des conditions d'enseignement qui sont très mauvaises, dans des amphis surchargés, et un taux d'échec à la fin de la première année ou de la deuxième année très important, et des chances à la suite des études de trouver un débouché professionnel très faible. Donc, par rapport à ça, il y a Parcoursup, c'est qu'un des éléments de cette réforme. Donc, l'idée, ça a été de dire, essayons de faire en sorte que les gens soient mieux aiguillés vers... Enfin, c'était deux choses. Que les gens soient mieux aiguillés vers des parcours qui peuvent correspondre à ce qu'ils souhaitent et qui leur donnent les chances de réussite les plus grandes. Et puis, c'était aussi pour... les formations qui ne sont pas si nombreuses que ça, mais les formations où il y avait trop de monde par rapport aux places, c'est pas le cas partout, comme vous le savez, c'est quelques spécialités dans quelques endroits, arrêter avec ce système de tirage au sort qui ne satisfaisait personne. Parce que quand vous avez 500 candidats pour 300 places, il faut bien trouver un moyen de savoir qui seront les 300 élus. Et donc le tirage au sort, ça depuis l'Antiquité, c'est un des moyens quand il faut choisir. Mais c'était considéré comme évidemment injuste parce que dans ce cas-là, un très bon élève pouvait se retrouver pas admis alors qu'un moins bon élève pouvait l'être. Bon. Donc on a mis en place ce nouveau système qui vise à ce qu'il n'y ait plus le hasard qui rentre en ligne de compte, mais plutôt les capacités, le projet, et puis ensuite, pour les filières sélectives, comme on dit, choix va être fait et donc l'idée c'est de faire en sorte que d'abord ce soit moins arbitraire que le tirage au sort et ensuite de faire baisser progressivement le taux d'échec notamment à la fin de la première année dans ces filières là. Alors après c'est pas Parcoursup, c'est pas une fin en soi, c'est simplement un outil. Le vrai jugement, pour essayer de répondre sans répondre, le vrai jugement, il faudra l'avoir dans quelques années, quand on regardera l'évolution de la situation. Est-ce qu'il y a toujours le même taux d'échec à la fin de la première année? Est-ce que les gens s'orientent plus vers des filières où ils ont des chances de réussir? Mais ce qui veut dire aussi que l'offre de l'enseignement supérieur doit évoluer. Donc voilà. Et là, dans 5 ans, on pourra dire, oui, finalement, ça va mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Ou alors, on s'apercevra que finalement ça n'a pas tellement changé, que le taux d'échec reste le même. Et du coup, on dira que la réforme n'a pas suffi ou n'a pas été complètement satisfaisante. Là, on est vraiment au tout début. Là, ce qu'on voit, c'est... Et c'est normal... Alors, évidemment, c'est ceux d'entre vous qui sont en terminale, c'est vous qui testez ça pour la première année. Et forcément, il faut attendre cette première année pour voir comment ça marche, s'il marche, s'il ne marche pas. Et c'est le débat en ce moment. Hein. Vous voyez ça sur Internet tous les jours. Il y a évidemment... Alors, je parle de ça, c'est évidemment pas directement l'agent. Alors, on est concerné parce qu'on est intéressé de voir ce que nos bacheliers, vous et puis tous les bacheliers dans le réseau vont devenir, parce qu'on s'occupe évidemment de leur offrir, de vous offrir les meilleures opportunités pour aller dans les universités, françaises ou étrangères d'ailleurs, et surtout pour faire en sorte que le fait que vous soyez pas en France, pour ceux d'entre vous qui veulent aller en France, que le fait que vous ne soyez pas dans un lycée en France ne soit pas un handicap par rapport aux élèves qui sont en France. Donc ça, c'est notre rôle. Sur la réflexion sur l'enseignement supérieur, ça, c'est pas à nous, évidemment, de réfléchir, mais on verra. Le ministère de l'enseignement supérieur fera le bilan après septembre-octobre, fera le bilan de cette première année de Parcoursup, et puis verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et peut-être qu'ils ajusteront certains éléments du logiciel, je dirais. Mais bon, là, c'est vraiment au début, donc c'est vrai que vous essuyez un peu les plâtres. Il y a visiblement... Bon, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir... Après, il restera le fait que, voilà, si... Tant qu'il y aura 2000 bacheliers qui veulent aller dans une filière où il y a 1000 places, à Paris, en médecine, enfin, il y a quelques filières, comme vous le savez, ça sera compliqué. D'où cette question qui existe depuis l'éternité sur la sélection ou pas sélection à l'entrée à l'université.
Une dernière question.
Non, ça, justement, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Et il y a le débat sur est-ce qu'on fait une sélection ou est-ce qu'on n'en fait pas. Mais là, visiblement, par exemple, dans des facs comme dites à Paris, de médecine, de droit, il y a trop de gens qui veulent y aller par rapport au nombre de places qui est pourvu. Et je me demandais, selon vous, je voulais votre avis, pourquoi l'éducation nationale et l'État continuent-ils à affirmer que l'université est accessible à tout le monde? Et pourquoi ils ne diraient pas qu'elle n'est pas complètement accessible à tout le monde et qu'il y a une certaine...
Parce que justement, c'est une sorte de tabou en France, le mot sélection. C'est pour ça que le gouvernement prend bien soin à ne pas utiliser ce mot-là. Il y a d'autres pays où ça pose aucun problème et où notre débat paraît complètement surréaliste, parce que si vous parlez de notre débat aux États-Unis, ils disent bien sûr qu'il y a une sélection parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que et au Japon. Donc nous, c'est un tabou. Ce qui fait que le mot n'est pas prononcé, et ce qui fait aussi que ce que dit le gouvernement, c'est que ce qui est garanti, c'est l'accès à un enseignement supérieur. Mais l'enseignement supérieur, ça ne veut pas forcément dire l'université. Il y a d'autres formules, il y a les IUT, il y a les... Bon. Et ça rejoint un peu la première question, c'est-à-dire, l'idée c'est de dire, la vocation, c'est pas que tout le monde se retrouve en médecine ou en sociologie à Nanterre, ou en médecine à Sorbonne, ou à Paris 5. Il faut diversifier, parce que sinon, et encore une fois, ça sert à quoi ça sert de que les gens s'inscrivent dans une filière où, à la fin de la première année, 60% abandonnent et se retrouvent, ont perdu du temps, sont démotivés, etc. Et donc, je vous dis, si... Alors, peut-être que dans quelques années, ce tabou sautera et qu'il y a un gouvernement qui dira, bah oui, on fait de la sélection. Alors, on fait de la sélection avec des critères objectifs, pas arbitraires, et puis surtout, on élargit la palette, c'est-à-dire, encore une fois, il ne s'agit pas de dire soit vous allez aller en médecine, soit on ne s'occupe pas de vous et vous ne ferez aucune étude. C'est de diversifier les offres. Et puis surtout, on revient toujours à la même chose, de valoriser ces autres études, les études plus courtes, en essayant de convaincre tout le monde que ce n'est pas un échec, mais c'est simplement une autre... une autre voie. Et comme le directeur le disait tout à fait justement, maintenant, vous faites quelque chose à 20 ans, vous faites des études, vous allez peut-être travailler 3 ans dans un endroit, et puis peut-être que dans 10 ans, vous allez complètement bifurquer, vous aurez fait de... vous serez dans une société d'internet pendant 10 ans, et puis ensuite vous allez ouvrir un restaurant, et puis après vous allez repartir dans l'industrie pétrolière, et puis vous serez là, vous êtes au Japon, vous allez aller en France, vous allez aller aux États-Unis. Alors que c'est vrai que notre génération, c'était plus on fait des études et puis on devient médecin, et dans ce cas-là on est médecin pendant 40 ans au même endroit, on est avocat 40 ans au même endroit, on est fonctionnaire 40 ans dans le même ministère. Et donc du coup c'est pour ça que ce choix-là, le choix de départ, du coup il devient essentiel, puisque c'est lui qui détermine toute une vie professionnelle. Si on considère que, alors ça a des aspects positifs et négatifs, hein, parce que c'est sécurisant aussi de se dire une fois qu'on est sur les rails, ça y est, hop, on n'a plus qu'à attendre la retraite. Mais c'est aussi motivant de se dire bah voilà, je fais ça là, et puis quand j'aurai 30 ans, peut-être que je ferai autre chose. Et c'est toute la question de la formation tout au long de la vie, et de changer et de bifurquer. Et je dirais que vous, en tant qu'élève dans un pays étranger, vous aurez encore plus d'outils pour changer, pour aller dans une voie et puis dans une autre. Et donc, le premier choix, alors, il reste important, mais il est moins vital et définitif que... et peut-être que, au lieu de se dire, tiens, je vais faire absolument 6 ans d'études ou 5 ans d'études au début, puis après j'ai mon métier, puis je suis tranquille, pour certains, ça sera 6 ans, puis pour d'autres, ça sera 2 ans, 3 ans, un bachelor, une licence... et puis une expérience professionnelle, et puis après un master ou un doctorat à 30 ans ou à 35 ans. Et voilà. Mais bon, ça va mettre du temps un peu à évoluer, parce que voilà, les états d'esprit sont assez, on est marqué par cette période là où le but c'était vraiment l'université pour tous, quoi. C'était un peu ça, sachant qu'il y avait déjà, c'était déjà un peu inégal, parce qu'il y avait des grandes écoles qu'on a toujours du mal à expliquer dans les pays étrangers parce que ça n'existe pas ailleurs. Les grandes écoles, c'était tout à fait sélectif. Polytechnique, on n'y rentre pas comme on veut, ou Sciences Po maintenant, ou les écoles de commerce, hein. Donc il y avait déjà cette voie un peu express là, qui était elle, et qui pour le coup elle assumait le fait d'être sélective. Donc et les grandes écoles, elles doivent faire partie du débat, d'ailleurs.
On va peut-être conclure, si vous voulez bien.
Oui.
Parce que le temps passe. Vous avez d'autres activités aussi, monsieur Lachère.
Il faut que je voie vos professeurs et vos parents aussi. Enfin, en tout cas, certains, une partie d'entre eux.
Je vous propose déjà de remercier.
Merci, monsieur.
Voilà. J'espère vous revoir très prochainement.
Mais
à Kyoto.
Avec plaisir. En tout cas, moi, j'étais très, très heureux de cette rencontre. Et puis, bravo pour vos questions, parce que c'est des vraies questions, des vrais sujets. On aurait pu y passer tout un week-end. Donc, la prochaine fois, on fera ça. On trouvera un endroit un peu dans la campagne. Et puis, on discutera. Mais en tout cas, bonne chance. Bravo. Bonne chance à vous. Alors, ceux qui passent le bac dans quelques semaines, jours. Enfin, ça... et puis ceux qui le passent dans un an ou dans 2 ans. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que vous réussirez tous et dans des voies différentes, parce que vous ne faites pas tous des écoles de commerce. Hein, c'est pas... Il en faut, mais il faut d'autres parcours aussi. Il faut des parcours. J'ai vu qu'il y avait quelques littéraires, donc je suis content, parce que moi j'étais aussi. Ça s'appelait pas L à mon époque, ça s'appelait A, mais c'était ça. Et puis voilà. Et puis surtout vous dire que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est voilà, vous aurez plein d'occasions de bifurquer, de changer, et c'est très bien comme ça. Voilà, en tout cas, bravo à tous et bonne continuation.
Merci.
change de salle. À demain. Et à demain pour la fête. Oui, voilà.